RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Je vais prendre ma parole avec les GG, avec les grandes gueules. C'est le 32-16, c'est le plus court chemin pour arriver en direct avec nous sur la radio RMC, la télé RMC Story, Canal 23 de la TNT, Charles Consigny, Laura Barton-Martinez, Fatima Idbouna. On attaque la deuxième heure des GG, deuxième heure au cours de laquelle il va être question de la sécheresse et ce maire du Jura qui décide de monter le prix de l'eau. Il fait x7, il le multiplie par 7, et ben, au moins on consommera moins d'eau. C'est la seule manière que les habitants comprennent. Est-ce qu'il a raison ou pas? C'est vrai que l'eau va devenir une denrée rare, surtout avec ces périodes de canicule qui vont s'enchaîner.
C'est vrai que les gens ont un pouvoir d'achat extraordinaire en ce moment.
De sécheresse.
Une bonne idée. Bah, Charles, il faut monter le prix de l'eau et baisser le prix du vin.
Charles soutient cette mer du Jura.
Bien surpris.
On en parlera tout à l'heure avec vous, bien sûr, à 10h30.
Je connais le terroir.
Premier sujet de discussion de cette deuxième heure. La désobéissance civile en cas de victoire du Rassemblement National. Elle est prônée par Marine Tondelier et par les Insoumis, en la personne de Mathilde Panot, qui était l'invitée d'RMC de BFM TV hier.
Nous résisterons de toutes les manières qu'il faut, évidemment.
Ça veut dire quoi résister? C'est-à-dire que s'opposer de toutes les manières possibles.
Élue, mais si elle est
vous savez,
élue,
même la désobéissance aujourd'hui, on la soutient.
Mais
même
si
sous Emmanuel
élue,
Macron. Donc,
ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen, si elle est élue par une majorité des Français, est-ce que vous direz, ben,
eh bien, voilà, non, c'est le non, jeu. Non, non, ce élue. Que nous faisons non. À ce moment-là, c'est en ce moment d'empêcher de toutes nos forces que l'extrême droite puisse gagner dans ce pays.
Mais
pour
si
ne pas qu'on désespère
était,
les gens.
Que la désobéissance vous paraît une attitude acceptable.
Oui, elle me le paraît toujours. Même aujourd'hui, elle me le paraît.
Voilà, c'est Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, qui s'exprime hier face à Pauline de Malherbe.
Oui, Marine Tondelier, écologiste, dit à peu près la même chose. Elle prône effectivement une désobéissance civile si le RN arrivait au pouvoir. Elle estime qu'une victoire du parti d'extrême droite placerait la France dans un autre monde et dénonce une certaine lâcheté face à cette montée politique. Alors c'est quoi la désobéissance civile? La définition est celle-ci. Il s'agit du refus public, conscient et pacifique de se soumettre à une loi, un règlement ou une autorité jugée injuste. On peut mener des actions alors qui sont illégales mais non violentes, comme des occupations, des actions de contestation. Alors bien sûr on peut faire à la mode Gandhi, c'est-à-dire voilà, Gandhi faisait des marches pacifiques, était dans la désobéissance civile. Le problème c'est qu'en France,
elle est tout à fait Gandhi.
Le problème c'est que quand on écoute Mathilde Panot, on n'est pas quand même dans la parole de Gandhi, c'est-à-dire voilà, c'est assez agressif et on peut imaginer effectivement que ça dérape et que des actions pacifiques se transforment en émeutes.
Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous-même vous pourriez entrer en résistance ou en désobéissance civile, parce qu'elle le dit, par tous les moyens. Alors, ça peut être une action violente, ça peut être aussi refuser d'appliquer les consignes de l'État en tant que fonctionnaire, qui sait. Vous venez nous le dire, Laura.
C'est une honte. Enfin, moi, j'avais justement l'exemple de Gandhi. Mais si elle fait ça, pardon de l'expression, mais si elle fait ça, ça veut dire qu'elle chie.
Ah non.
Pour moi.
Tu cherches un autre mot.
Alors,
ça veut dire qu'elle s'assoit sur le résultat électoral.
Elle défèque sur le résultat, sur ce qui fait notre démocratie, à savoir le suffrage direct et universel. Non. Que l'on conteste des lois, que l'on conteste des réformes, etc., c'est tout devoir de citoyen. On a le droit de manifester, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais inciter à une révolution dans la rue, parce que c'est ça qu'elle est en train
parce
de parler. Elle n'est pas du tout en train. Enfin, pardon. La désobéissance citoyenne, quand elle a eu lieu, notamment pour Gandhi, c'était des faits notoires. C'était des choses qui étaient invraisemblables.
C'était pas à remettre en cause.
Exactement. Là, on demande aux Français qui vous voulez comme président. Moi, je suis désolée. Bien que je déteste le parti LFI, si demain c'était LFI qui était au pouvoir, non, je ne suis désolée. Je ne hurlerai pas sur tous les toits de rue qu'il faut
tu
à dirais, tout prix. Je dirais, on est bien dans la
tu
panade.
N'entrerais pas en désobéissance civile.
Non, j'irai manifester, j'irai contester, j'irai sûrement militer pour que les choses changent et que ce gouvernement ne puisse pas aboutir à ses fins.
Donc
c'est
la même chose quand même.
Ah non?
Tu dis j'irai manifester, j'irai contester.
Non, désobéissance civile, ça veut dire quoi? Ça veut dire ok, là les gars, maintenant on a le droit de taper sur les keufs, on a le droit de brûler des bagnoles.
Non, la désobéissance civile, c'est
ça,
a priori
c'est ce
une action pacifique.
Oui, sauf qu'on sait exactement la méthode qu'utilisent les électeurs de LFI et de toutes ces personnalités-là.
Fatima.
J'ai envie de dire aux politiques, et pas simplement Marine Tondelier et Mathilde Panot, ça y est, le football a changé, comme diraient les élèves. 2026, le football, il a changé. Dans le sens, vous voyez, on ne drague pas des électeurs en 2026 comme on a pu les draguer avant. Donc il faut arrêter avec la politique fiction, avec le essayer de dire l'autre est un grand danger, donc votez pour moi. Proposer des choses. On n'a pas envie d'avoir des punchlines, on n'a pas envie de dire votez pour moi parce que sinon, oh, le pire est à venir. Le côté barrage, nous sommes le seul espoir, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on attend, c'est des programmes. Donc, LFI, ils ont commencé à le faire, hein, parce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à LFI, parce qu'il y a un programme, justement. Qu'ils continuent à montrer leur programme, que le RN montre son programme, que tous les autres montrent leur programme, et qu'on sorte du casting, de l'opération séduction, de l'opération punchline, de ces petites phrases en disant « voilà, c'est le grand danger », parce que ça ne fonctionnera plus. Moi, je vous dis, l'opération « vite les castors, venez, on va résister », nous sommes, ça ne fonctionne pas. Ce narratif-là est fini. Il faut arrêter. Donc, le football a changé.
Mais est-ce que, par exemple, je sais pas, les profs pourraient dire « on ne fait pas classe, on ne veut pas d'un ministre de l'Éducation nationale RN », ça, ce serait de la désobéissance civile. Tu vois, ce serait une grève. Est-ce que on peut l'imaginer, ça ?
Est-ce que tu crois que l'union, si tu crois une seule seconde à l'union des professeurs ?
Mais pourquoi pas ? Tu vois, le ministère de l'Éducation nationale bloqué, c'est ça la désobéissance civile.
Mais oui, c'est ça la désobéissance civile. Mais on n'a même pas l'élection. Pardon. Dans ces cas-là, on fait pas d'élection. Dans ces cas-là, si déjà, voyez, moi je suis pour, si un parti a droit de se présenter, c'est que c'est un parti où on a droit. Sinon, vous nous prenez pour des enfants. Ça veut dire, on veut qu'un enfant mette un manteau, et puis on va lui faire croire, il veut pas mettre son manteau, on va dire d'accord, je t'ai entendu. Alors, tu veux commencer par ta main droite ou ta main gauche? Donc on lui fait croire qu'il va pas mettre son manteau en lui donnant une fausse alternative. C'est ce qu'on fait.
Non, j'ai rien compris à cette parabole.
Quand ton enfant, c'est pas une parabole, c'est une technique de manipulation des enfants. Quand ton enfant,
la technique du manteau.
Quand ton enfant a 2 ans, les enfants disent non, je veux pas mettre mon manteau. À la place de dire si tu vas le mettre, non, je veux pas le mettre. Donc on dit ah tu veux pas mettre ton manteau, on fait diversion. On dit tu veux commencer, tu veux mettre le manteau rouge ou le manteau noir? Tu veux commencer par la main droite ou la main gauche? Et tu lui fais croire qu'il a le choix.
La manipulation.
Et on fait ça aux électeurs. Ça veut dire, on leur dit, vous pouvez voter. Et puis après, on va leur dire, non, mais il y a un des partis. Ah non, il est antidémocratique. Attends, bah dans ces cas-là, il ne peut pas faire partie des partis pour qui on vote.
On
a arrêter de prendre des gens pour des idiots.
On a Jean-Philippe qui est avec nous avant de te donner la parole. Jean-Philippe de Dijon, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous pourriez entrer en contestation, en résistance, Jean-Philippe, en cas de victoire du RN ou pas?
Ah non, non, moi simplement, ce que je voudrais dire, c'est si on prend littéralement ce qu'on nous expose, on nous dit, si le résultat des élections ne nous plaît pas, nous appellerons quasiment la révolution et la désobéissance civique. Non, je suis désolé, quand on est dans un pays avec une démocratie, la première chose, c'est de respecter le résultat des élections. On peut être dans l'opposition, on peut penser différemment. Mais aujourd'hui, les pays dans le monde dans lequel on n'a pas le droit de penser différemment, ça porte un nom et ça porte pas. C'est pas une démocratie. Aujourd'hui, quand on est en démocratie, la première chose, c'est d'accepter le résultat des élections.
En démocratie, on peut aussi manifester.
C'est pas la même chose que les élections civiles.
Allez-y, Laurent.
Exactement.
Jean-Philippe.
On peut ne pas être d'accord. On peut essayer d'exposer son point de vue. On peut être dans l'opposition, mais c'est pas de la désobéissance civile. À partir du moment où un ministre prend une décision, c'est vous avez pris l'exemple de l'éducation nationale ou des fonctionnaires. À partir du moment où le ministre de l'Éducation nationale impose quelque chose, qu'il pense comme vous ou pas, eh bien, c'est votre patron.
Donc, si on trouve ça insupportable, on peut démissionner, on n'est pas.
Voilà. Exactement. Je suis complètement d'accord. Donc, simplement, la première chose, c'est de respecter.
Respecter le résultat des urnes, est-ce qu'on décidait les Français. Jean-Philippe, merci. Bonne journée, Jean-Philippe.
Merci,
à bientôt dans les GG.
Si Marine Le Pen arrive au pouvoir, ce qui est probable, puisque aujourd'hui, c'est en tout cas ce que les sondages semblent indiquer, si on devait voter dimanche, elle serait élue. Est-ce qu'on peut craindre effectivement de la désobéissance civile, du bordel provoqué par les oppositions qui n'accepteraient pas le résultat?
Il y a plusieurs choses. D'abord, si on se projette, je pense que il y aura forcément un peu de grabuche pendant une semaine, 10 jours, 15 jours après l'élection. Ça me paraît assez certain. Mais il y a une autre chose qui est certain, partis politiques, et notamment la France Insoumise, qui veulent en fait un troisième tour dans la rue. Mmh. Et on voit bien que c'est quelque chose qui a été réfléchi entre eux, ils l'ont théorisé, préparé presque. Ils ont envie de... Je sais pas, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils cherchent le renversement ou est-ce qu'ils cherchent peut-être... tout bêtement, un rééquilibrage à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a cette donnée-là qui se pose. Après la présidentielle, il y aura probablement des législatives, soit tout de suite, soit un peu plus tard. Sauf erreur de ma part, ce sera au président ou à la présidente de la République élue de dissoudre à nouveau l'Assemblée pour qu'il y ait des législatives. Il n'est pas obligé d'ailleurs, ou elle, de le faire tout de suite, mais bon.
Et donc, comme il n'y a pas de majorité, j'imagine qu'elle le fera quand même.
J'imagine que ça peut attendre, ça peut attendre un mois, enfin j'en sais rien, on verra. Mmh. Évidemment, normalement, il faut le faire tout de suite. Mais donc, je pense que les Insoumis ont envie de ça, et puis par ailleurs, c'est dans leur ADN, cette espèce de... Moi, je pense que ça n'ira pas au-delà de petite violence sur le moment, et je pense pas qu'on s'installera.
Déjà, petite violence, c'est pas tolérable.
Et puis, ça vient.
Il y en a tout le temps, pardon, mais des violences, des voitures brûlées, des manifs qui dégénèrent, il y en a tout le temps. Mais je pense que ça n'ira pas au-delà. Et par ailleurs, je constate quand même que, de plus en plus aujourd'hui dans notre pays, le fascisme est à gauche. L'intolérance est à gauche, le refus du débat démocratique est à gauche, le refus maintenant même des institutions démocratiques est à gauche, la fascisation de l'adversaire est à gauche,
un bon média.
Et le fascisme est aussi dans les mesures proposées, puisque quand j'écoute Madame Panot, qui en gros nous expliquait il y a une semaine qu'il fallait interdire, enfin même il y a deux jours, qu'il fallait interdire les milliardaires. Et là, j'ai vu que ce matin, on était déjà descendu à 4000 euros par mois, le seuil de richesse et de saisie.
Avec Guy Hollande, déjà, en 2012. Voilà.
Hein. Oui, mais là, il veut augmenter les impôts.
Oui, mais chez les insoumis, c'est au-delà de 4000, on te prend tout. Alors déjà, j'aimerais informer Madame Panot qu'en réalité, c'est déjà le cas en France. Hein. Mmh. En pratique, les taux pratiqués font que si vous n'êtes pas milliardaire, mais que vous gagnez un peu plus de 4000 euros par mois, l'État vous prend déjà tout. Donc, les mesures qu'elle préconise sont déjà existantes. Et moi, j'appelle ça du fascisme. Je suis désolé, je pense que l'égalitarisme à outrance et la spoliation du fruit du travail des gens, c'est du fascisme. Et donc, je pense que il montre les autres en disant « Ouh là là, attention, regardez, Goebbels est aux portes du pouvoir », mais je pense qu'il ferait bien de se regarder eux.
On a Jérôme qui veut intervenir, Loire-Atlantique, technicien de laboratoire. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous seriez prêt, vous aussi, à suivre la désobéissance civile? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi.
Alors, surtout pas. Alors déjà, pour info, moi, LFI, comme le RN, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Il s'agit de bien de regarder, non pas que le fond, mais aussi la forme. Et de la part de personnes de gauche qui veulent incarner un renouveau, qui veulent incarner une forme d'expression libre dans la démocratie, prendre conscience que c'est des gens qui appellent à une forme d'anarchie, il y a quand même une forme de malhonnêteté intellectuelle de leur part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir dire qu'on va incarner quelque chose de beau, ou le vivre ensemble et tout ça, et dire, peu règle numéro un, on va contester une élection.
Moi, quand vous vous appelez les insoumis, en même temps, vous donnez un peu la couleur.
On peut pas dire qu'on est surpris.
Oui, mais alors dans ce cas-là, il faut pas se présenter à l'élection présidentielle.
Mais leur but, c'est de renverser ensuite, de changer les institutions et la Constitution.
Il y a une contradiction. Je suis désolé, il y a une contradiction. Si t'es insoumis, tu l'es jusqu'au bout et tu ne reconnais pas ces institutions et tu dis, on prendra le pouvoir par la rue. Non, parce que si Jean-Luc Mélenchon demain est élu président de la République, alors on pourra aussi désobéir, nous. On pourra ne pas appliquer ce qu'il veut.
Mais les insoumis, Jérôme, les insoumis, ils sont... Jérôme, pardon, je vous redonne la parole dans un instant, Jérôme. Mais les insoumis, depuis qu'ils se sont créés, c'est clair, ils sont insoumis à la 5e République.
Et oui, bon, ce qu'ils veulent, c'est... Ils se présentent à l'élection présidentielle.
Mais oui, mais c'est... Mais d'accord, mais c'est comme ceux qui sont... Oui, mais d'accord, mais c'est exactement comme ceux qui sont anti-européens aujourd'hui, tels quels, qui se présentent pour dire, une fois qu'on est élu, on change le système.
Mais la révolution, elle se fait pas dans le système. La révolution, elle se fait dehors.
Mais non.
Donc, non,
là, aujourd'hui, ils veulent se présenter. Et ensuite, quand ils se présentent, on met à bas la 5e, on passe à la 6e.
Mais
pour ça, il faut le pouvoir.
Oui,
mais ça s'appelle un putsch. C'est pas un coup d'État avec des militaires en France.
Non, mais pardon, mais ils croquent l'oseille de ce système depuis des années. Maintenant, ils veulent. Attends, ça va. La crise, ça va deux minutes.
Pardon, allez-y, Jérôme. Ça s'est un peu emballé, désolé.
C'est ça. Mais moi, c'est ce que je disais.
C'est à cause de vous, Jérôme.
Je vous appelais, j'ai dit, oh, cette année, ça va être sport.
Allez-y, allez-y, Jérôme.
Donc, non, non, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Maintenant, contester une élection, eh ben déjà, pour la contester, petit 1, proposer sur le fond, ça mais fait oui. des décennies qu'on est toujours à se faire élire sur la forme, mais pas sur le fond. Et ça fait 30 ans que les gens disent « Attention, on en a marre, il y a un désintérêt même pour des élections maintenant municipales. Oui. » C'est de ça dont il est question.
Et même présidentielle, et appelle, la dernière fois.
Quand on appelle des fonctionnaires à une désobéissance, je rappelle, en tant que fonctionnaire, qu'on a un devoir de réserve. Donc, de près ou de loin, on est dans un pays d'état de droit et de devoir. Et on n'a pas que des droits. Et ça, en France, ça fait, je dirais, une petite dizaine d'années qu'on oublie qu'avant d'avoir des droits, on a d'abord des devoirs. Et que pour respecter ça, pour que ça fasse un socle social qui ouais. en capacité d'avancer ensemble, eh ben, faut d'abord respecter ses droits et ses devoirs. Et ensuite, on propose sur le fond, parce que critiquer, c'est bien, mais sur le fond, vous proposez quoi? Le RN, moi, je ne voterai pas pour. Par contre, pour des questions d'histoire familiale, je suis issu d'une forme de l'immigration, mais pour le fond, quand on regarde le programme, il y a quelque chose. Je tranche plus après sur le RN, mais ça, c'est un avis purement personnel. Ça se dit est un parti qui est profondément français, comment attaché au territoire. Bon, sont à l'Europe, et ils ont bien compris depuis longtemps qu'ils savent très bien que tout est lié à l'Europe et qu'on ne pourra pas faire grand-chose si on se sépare de l'Europe. Ou en tout cas, il faut vraiment acter ça.
Mais Jérôme,
ils proposent sur le fond,
d'accord,
pas sur la forme.
Mais Jérôme, justement, on va continuer cette discussion par rapport à ce que vous dites, pour savoir si c'est de l'intérieur qu'il faut changer les choses ou au contraire, il faut faire basculer complètement le pays dans la rue. Cette insoumission, jusqu'où elle va, cette désobéissance civile, jusqu'où elle peut aller. Dans un instant, c'est Aurélie, agent immobilier, elle est dans le Gard. Fatima a quelque chose de très intéressant à nous dire, mais pour ça, il faut se préparer un peu. Donc, c'est 4 minutes, on va les prendre pour se préparer mentalement. Ensuite, Fatima prendra la parole. À tout de suite, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Mais si, parce que leur but, c'est de renverser ensuite, les institutions C'était une discussion franche et surtout audible, argumentée. Mais oui. Aurélie est avec nous pour parler de la désobéissance civile. Bonjour Aurélie.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur RMC, RMC Story dans les GG, dans les grandes gueules. D'accord avec le scénario Panot-Tondelier ou pas alors?
Bon, alors, Madame Panot, je vais mettre des madames parce que je vais essayer d'être poli.
Soyons, c'est mieux.
Mais Madame Tondelier et Madame Panot, moi, sincèrement, là, avec les propos qu'elles ont tenus, je leur fais péter leur mandat, je leur mets une amende salée, une petite peine d'inéligibilité pour qu'elles réfléchissent à ce qu'elles viennent de faire. Je suis désolée, mais à un moment donné, on ne peut pas prôner la République et faire en sorte que le peuple s'insurge. C'est anticonstitutionnel.
Ça vous choque qu'une élue
mais moi,
préconise la désobéissance civile?
En fait, ça fait 20 piges qu'on se tape des présidents dont on se fout. Le dernier pour qui j'ai voté, mon poulain, c'était Jacques Chirac. D'accord?
Paix à son âme.
Voilà, le
ça remonte.
Mais,
le poulain,
on n'a jamais eu un poulain qui a fonctionné parce que on n'a jamais eu celui qu'on voulait. Et c'est pas pour ça qu'on a fait le carnaval dans la rue.
Ouais.
Et puis pourquoi toujours contre le RN? Parce que Madame Panot et Madame Tondelier, elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent, mais en attendant, le Rassemblement National, il est droit dans ses bottes. Il respecte les urnes.
C'est
et
le
même quand
dire.
Elles trafiquent les urnes, quand c'est les législatives. Voilà.
Ouais.
Donc non, moi ça me fait bondir quand j'ai entendu ça, mais ça m'a. Non, je suis outrée d'entendre des trucs
pareils. Après, c'est une stratégie, il faut pas être dupe. L'idée quand même, c'est de faire peur et de faire comprendre.
Non, mais de faire comprendre.
Non, mais l'idée, c'est de faire passer le message aux Français que, quand même, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, ça serait le chaos, donc ça serait mieux d'éviter que Marine Le Pen passe.
Ça va être du pain béni, peut-être, hein.
Alors, ouais. Non, Aurélie
on fera l'expérience vénézuélienne au moins si c'est Mélenchon.
Ah ouais,
on saura nous aussi ce que c'est.
On a déjà eu la canicule cet été. On
saura nous aussi ce que c'est qu'un pays qui s'écroule sur lui-même en 15 jours.
Non, puis pardon,
c'est quand même intéressant à vivre.
Si tu prônes la désobéissance.
Je suis avec vous, pardon, mais je vous aime beaucoup.
Merci Aurélie.
Si tu prônes la désobéissance citoyenne, Why not? Mais dans ces cas-là, prône aussi la désobéissance parlementaire. Refuse l'argent qu'on te donne. Refuse les avantages parlementaires. Refuse tout ça. Et là, si une personne qui est là, qui prône justement, qui s'appelle insoumis, et donc pardon, hein, mais quand t'es insoumis, tu prends pas l'oseille. Donc si tu donnais l'argent justement à des associations, que tu les donnais à les associations de quartier pour les sortir de la misère incommensurable dans laquelle ils vivent, et que tu me disais, moi je suis dans la désobéissance, je veux retourner la table, je veux la renverser.
Pardon, mais
tu serais audible. Là, pardon, tu bouffes à la soupe depuis des années.
À notre amie Aurélie, parce qu'elle dit pourquoi quand Macron...
Elle soutient aussi. Hein.
Moi, je suis désolé, mais le mouvement des Gilets jaunes a basculé à un moment donné dans un caractère un peu insurrectionnel. Quand il y avait des manifestants... Quand il y avait des manifestants à 200 mètres de l'Élysée qui voulaient à l'Élysée, on n'était quand même pas loin. Ça aurait pu basculer à ce moment-là.
Ce n'est pas un parti politique qui l'a demandé. Là, ce qui est choquant, c'est que ce n'est pas les citoyens qui se révoltent.
Ce moment-là.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais déjà, les Gilets jaunes, ils étaient quasiment plus quand il y avait les casseurs. Et la différence, c'est que c'était pas un parti politique qui a dit et qui a levé l'insurrection. C'était les citoyens qui n'en pouvaient plus. Là, vous avez quand même
entendu à l'époque beaucoup de condamnations de la part.
C'est pas eux qui ont lancé le truc.
Non.
Là, ils sont quand même en train d'être porteurs d'une émeute qui pourront revendiquer. À quoi on joue? Elle a complètement raison, l'auditrice. Moi, je leur enlève leur mandat.
Aurélie, restez avec nous, Aurélie, parce qu'on a Saïd de la Somme qui est fonctionnaire territorial. Bonjour, Saïd.
Bonjour.
Militant LFI, hein, vous nous avez appelé d'ailleurs pour ça.
Exactement.
Voilà. Et donc vous seriez prêt en tant que fonctionnaire à entrer en désobéissance, dites-moi.
Alors, pas en tant que fonctionnaire, mais en tant que citoyen, bien évidemment. Je veux dire, il faut bien distinguer deux choses. Moi, mon statut professionnel, c'est mon statut professionnel. Ce que je fais en dehors de mon cadre professionnel, c'est militer et participer à des manifestations. Là, aujourd'hui, on est en train de débattre sur le sujet de la désobéissance civile. C'est ça?
Oui.
Olivier Trochu a donné une parfaite définition du terme. Il n'y a rien de dangereux à ça, c'est juste un rapport de force. C'est-à-dire qu'en France, il nous est encore permis de manifester notre mécontentement face à des lois iniques. J'utilise un terme que un de vos chroniqueurs aime bien, Antoine Dierz, pour vous dire simplement que la désobéissance civile, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est juste une contestation, c'est juste un rapport de force dans la rue, dans un cadre, celui de la manifestation.
Mais là, Saïd, est-ce que
Saïd,
vous pensez
vous
que c'est...
Vous serez incarcéré, en tout cas, hein, en cas d'élection de Marine Le Pen. Nous notons votre nom, vos fonctions.
J'en ai une pour vous, Charles, tout à l'heure, mais on va laisser d'abord intervenir...
Vous serez immédiatement, en tout cas, incarcéré.
Laisse parler.
Allez, Fatima, vas-y.
Oui, parce que tu m'as interrompu, je posais une question.
Mais Fatima, si on ne t'interrompt pas, on ne peut pas faire l'émission.
C'est pas gentil. C'est condescendant.
C'est un problème de temps de parole.
Non, c'est condescendant. C'est condescendant, Charles.
Non, je dis les choses, on est dans les grandes gueules.
Oui, non, mais là, t'es condescendant et ça sert à rien.
La
méchanceté, ça sert à rien.
Laisse-la parler. Fatima, vas-y quand même. Vas-y.
C'est affectueux.
Non, c'est méchant.
Alors, qu'importe. Je laisse les auditeurs choisir. Saïd, est-ce que vous ne pensez pas que cette polémique, elle va nuire à LFI, qui au contraire était là en train de tabler sur ses programmes? Parce que moi, les jeunes que je rencontre et qui me disent « je m'intéresse à LFI », justement, ils disent « j'aime le programme ». Comme les électeurs du RN, eux aussi disent « je m'intéresse au programme ». On n'est pas dans un casting, ce sont des élections. Donc vous ne trouvez pas que cette polémique-là, de faire de la politique fiction, elle pour moi, elle est contre-productive? Qu'est-ce que vous en pensez-vous comme militant LFI?
Moi, je vous rejoins totalement là-dessus et je vais vous parler franchement et directement. Depuis, j'étais présent, pour ma quatrième fois, à l'université d'été de la France Insoumise, à Valence, Châteauneuf-sur-Isère. J'ai jamais vu ça. Jamais.
La participation.
Vous savez pourquoi? Parce que on a le peuple français, une partie du peuple français qui adhère à des idées, etc. Il y avait des curieux, j'ai parlé à plein de gens qui vont aller voir d'autres meetings, d'autres candidats politiques. Et on trouvait une cohérence sur notre présence ici. Mais pour revenir sur ce que disait un instant...
Charles
Non. Fatima. Charles, plus tard, mais Fatima.
On les confond parfois.
Oui, je vais aller directement. Depuis l'avènement des universités d'été de la France Insoumise, avec une participation exceptionnelle, je veux dire, il n'y avait même plus de place où se garer, les polémiques s'enchaînent. On a et d'ailleurs j'apporte tout mon soutien au maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko.
Là c'est pas une polémique, c'est une enquête judiciaire.
C'est une enquête judiciaire.
Quand je vois la personne
qui est à la source de cet article, c'est-à-dire Frédéric Adida, qui, je le rappelle, a été a fait l'objet de plaintes et qui a été rappelé à l'ordre.
Oui, mais là, il y a le PNF, le Parquet National Financier, qui va vérifier si oui ou non Bali Bega Yoko avait un emploi fictif ou dans
la RATP.
Mais
pour vous, ça
a été... Et les polémiques s'enchaînent. Mmh. Là, on a hier... Et j'en pense
mais c'est bon signe, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon
député,
fait peur. C'est ce que vous dites.
Au député Sébastien Delegue, qui a eu une intercation avec trois civils. Je dis trois civils, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de présenter leur carte professionnelle jusqu'à ce que Sébastien, insiste. Et là, encore une énième polémique sur le qu'est-ce que ça veut dire la désobéissance civile. Moi, je veux vous dire une chose très profonde. La première fois que j'ai manifesté dans ma vie, c'était en 2002, c'était contre Jean-Marie Le Pen. Oui. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça s'est banalisé. Marine Le Pen, aujourd'hui, on a quasiment oublié qu'elle a été condamnée pour détournement de fonds publics.
Ah non, il y a le jugement et la cassation.
C'est vrai, vous avez raison.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que depuis les universités d'été, l'extrême droite n'existe plus. C'est LFI, 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 ce qui se passe à gauche, Glucksmann.
Mais Marie j'ai envie de dire, Saïd, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon.
C'est ce qui
ça
cherche.
Veut dire qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Non, je termine. Saïd, parce qu'on vous a écouté avec attention, mais je pense que c'est une bonne nouvelle et que Jean-Luc Mélenchon n'est pas mécontent d'être au cœur même des polémiques, parce qu'il progresse dans les sondages et que, vous savez, il y a d'autres candidats. Bruno Retailleau, par exemple, qu'on entend, on n'entend plus du tout. Alors là, il revient cette semaine. Il sera d'ailleurs sur BFM TV ce soir chez notre excellente consoeur Sonia Mabrouk. Mais on voit bien qu'il y a des candidats qui peinent à se faire entendre. Jean-Luc Mélenchon, il est au cœur de tous les débats. Vous avez vu l'histoire des milliardaires. Après, on est d'accord ou pas. Mais on ne parle que de ça.
Polémiques.
C'est bon pour lui. Le fait qu'on parle des milliardaires, eh bien, c'est finalement les insoumis qui sont maîtres des horloges du débat présidentiel.
Et puis il ouvre les débats, pour moi c'est pas... Excusez-moi,
c'est la force d'ailleurs de Mélenchon d'ailleurs.
C'est très important, moi je vous parle en tant qu'individu, en tant que militant. Nous les militants, on est sur le terrain, on vient, on se confronte au réel avec la population. On essaie de les convaincre. J'ai déjà, moi, j'habite dans la Somme, dans la circonscription de François Ruffin, c'est particulier hein. D'ailleurs, je salue, je sais pas où ce qu'il en est dans son stop dans la France. Mais ce que je veux dire, c'est que nous on est des êtres humains. Avant tout.
Nous aussi.
C'est-à-dire que.
Non, mais. Je vous assure, nous ne sommes pas que des machines. Vous voyez la télé, on a des cœurs. On a des cœurs, des sensibilités, sauf Fatima.
Il faut prendre en compte le fait que toutes ces polémiques, elles nuisent aussi dans le réel des gens. Vous comprenez?
Non, pardon, c'est pas des polémiques. Je suis désolée, Saïd, c'est pas des polémiques. Parce que au contraire, je trouve ça très bien. Enfin, je veux dire, là, le coup des millionnaires, le coup de l'héritage, c'est pas des polémiques. C'est des sujets que M. Mélenchon met sur la table. Ensuite, à qui veut de suivre ou pas, d'être d'accord ou pas d'accord, ça crée le débat. Là, ce qui me pose problème, et j'aimerais votre réponse très sincèrement. Moi, c'est qu'un parti politique demande, en gros, la révolte des citoyens. Si, imaginons deux secondes, moi personnellement je trouverais ça tout aussi honteux. Si demain le Rassemblement National disait, si LFI passe au pouvoir, je veux que ce soit la folie dans la rue. Qu'est-ce que vous diriez? Là on n'est pas sur du militantisme. Je suis désolée. Quand vous faites partie d'une institution, quand vous êtes payé depuis des années par cette institution, que l'incitation fait ce que vous êtes, que vous n'avez jamais bossé dans le privé, que vous êtes un pur fruit de cette institution, demandez au pays qui respecte l'institution, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, d'aller dans la rue.
D'ailleurs, je trouve que c'est de prendre des risques.
Je trouve que c'est honteux. Parce que Monsieur Mélenchon, lui, il risquera rien. C'est vous qui allez vous retrouver dans la merde, Saïd. C'est pas lui. Et il viendra pas en parlant vous aider.
Vous détournez la définition de la désobéissance civile, mais c'est pas grave. Moi, il y a
non. Moi, je suis pour le militantisme. Non, je suis pas d'accord avec vous, Saïd. Moi, j'ai milité. J'ai milité pour la loi intégrale. J'étais dans une manifestation qui était acceptée dans les rues. On a fait du bruit. On s'est fait entendre.
C'est pas ça, désobéissance civile.
Et c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je suis d'accord et je me considère comme militante. Mais militante, ça veut pas dire désobéir aux lois de la.
Désobéissance civile, par exemple, ça serait d'occuper illégalement un lieu.
Eh bien, ça, je suis contre.
Ou
refuser d'appliquer
des mesures. Et bien ça, je suis désolée, un représentant de la République française a en aucun cas le droit, c'est déshonorant, c'est devrait être illégal de demander aux électeurs de faire une chose pareille.
Saïd, on va conclure la discussion rassemblement à l'Élysée. Il y a des appels à la désobéissance civile. Est-ce que vous pourriez suivre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On va regarder. Est-ce qu'on en pense sur les réseaux sociaux? On va regarder donc la consultation, oui ou non. Est-ce que vous désobéiriez? Non, sûrement pas, à 87% quasiment. On va aller dans le Jura dans un instant. On va aller dans une commune qui s'appelle, j'espère que je prononce bien, Pilemoine. C'est dans l'agglomération de Lons-le-Saunier où le maire multiplie le prix de l'eau
par 7 pour pousser les habitants à faire des efforts. Est-ce qu'il a raison? C'est au 32-16 que ça se passe, il est 11h25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Avec les GG, vous prenez la parole, vous réagissez au 32-16. Fatima Hidbounois est là, la prof de français. Nous sommes avec Laura Barton-Martinez, la sophrologue. Nous sommes avec l'avocat Charles Consigny. Le 32-16 est donc à votre disposition, notamment pour commenter ce qu'a fait ce maire d'une commune du Jura. Nous sommes du côté de Pilmoine. Pilmoine, c'est l'agglomération de Lons-le-Saunier où, comme bon nombre de communes françaises, on a connu des problèmes de sécheresse cet été. Eh bien, monsieur le maire a pris une mesure radicale.
Alors, c'est un tout petit village, hein, une soixantaine d'habitants. Et effectivement, il y a un problème parce qu'il y a une source qui alimente le village. Elle est très affectée par la sécheresse. Elle ne fournit plus suffisamment d'eau. Il se dit, la seule façon, c'est de pousser les habitants de ma commune à réduire drastiquement la consommation. Et donc, le conseil municipal de Pilmoine a décidé de faire passer temporairement le prix du mètre cube d'eau de 1,10€ à 8€. C'est quand même 7 fois le tarif habituel. En fait, c'est une mesure punitive. C'est-à-dire que la question, c'est en faisant payer 7 fois plus cher l'eau à tout le monde, eh bien, on veut que ça baisse. Mais c'est punitif et c'est sans doute injuste parce qu'il y a sans doute des habitants dans ce village qui n'abusent pas. Mais ils sont obligés quand même de subir ce tarif multiplié par 7. Je pose la question, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Est-ce que d'ailleurs c'est juridiquement solide? Est-ce qu'un maire comme ça peut du jour au lendemain décider multiplier par 7 le prix de l'eau? Alors visiblement, il l'avait déjà fait en 2018 lors d'une ancienne sécheresse. Est-ce que c'est la bonne méthode?
Je préfère ça plutôt que de faire venir des camions citernes. C'est ce qu'il dit Charles. Dans ton Jura que ça se passe.
C'est juste à côté de chez moi en l'occurrence, effectivement. On a eu une sécheresse énorme là dans le Jura ces derniers mois, avec des chaleurs causées par des chaleurs complètement dingues où on était parfois à 37 degrés pendant plusieurs jours, semaines, sans une goutte de pluie. Et honnêtement, on sentait la nature souffrir terriblement de cette sécheresse et de ces chaleurs. Et donc, moi, je pense que l'initiative de ce maire n'est pas absurde du tout, parce qu'il faut aussi que les gens prennent conscience des choses et ne vident pas pour rien ou pour des choses superflues les réserves d'eau. Mais moi, je pense, par ailleurs, que le problème est tel qu'en réalité, on devrait faire aujourd'hui comme ils font dans les Émirats, et faire venir de l'eau par pipeline. Moi, je crois que le problème est trop important. Hier encore, dans Paris, je roulais dans Paris, un arbre assez jeune, visiblement, a perdu une branche assez importante, qui est tombée sur un motard. Et alors, heureusement, il s'en est pas trop mal tiré, mais c'est la sécheresse qui cause ça. Et donc, je trouve qu'il faut prendre des mesures. Il y a beaucoup de pays où ils sont habitués à ces chaleurs extrêmes, ils prennent des mesures. Moi, je serais vraiment favorable à ce qu'on fasse venir de l'eau par tous les moyens pour éviter de transformer, d'abîmer trop la nature. Parce que ce qui se passe après, c'est que à cause de quelques semaines de sécheresse...
Donc, bravo, monsieur le maire.
Les arbres meurent et la nature meurt. Oui, je dis bravo au maire, absolument.
Laura ?
Moi, je suis partagée. Déjà
en Corse, tu m'as dit que vous avez c'était la
sacrement... Ah non, c'était restriction d'eau.
Voilà, restriction d'eau.
Régulièrement en Corse.
Oui, mais nous on a l'habitude maintenant. Mais
c'est pas la même chose, la restriction d'eau et faire payer cette fois plus cher.
Exactement. C'est pour ça que je suis mitigée sur ce qu'a fait le maire. Mais en même temps, je pense que on a aussi affaire à un maire d'une toute petite commune qui devait se sentir complètement démuni face au gaspillage peut-être dont il avait conscience et qu'il voyait tous les jours. Premièrement, est-ce qu'on pourrait déjà se reposer la question sereinement, sans que ça parte en vrille avec les écologistes, sur les bassines? On sait que maintenant l'eau n'est plus répartie sur l'année, mais qu'elle tombe beaucoup trop vite et d'un coup, une seule fois. Donc on pourrait peut-être se reposer la question sur les bassines, premièrement. Et ensuite, pour monsieur le maire, peut-être aurait-il été plus judicieux, après je ne veux pas donner de leçons, je ne suis pas maire, je ne suis pas élu, mais de voir quelle est la consommation d'eau moyenne de ses habitants, de ne pas augmenter le prix sur cette quantité d'eau moyenne dépensée par ses habitants et sur le surplus. Oui, pourquoi pas, puisque malheureusement, on le sait, le Français, si on lui dit « ne fais pas ça », il va penser à son individualisme et il va le faire quand même. Et on se retrouve ensuite avec des nappes phréatiques qui sont complètement asséchées et c'est pas bon non plus.
Fatima.
De toute façon, on peut pas le critiquer de loin, puisque finalement, on voit bien que c'est une solution dans l'urgence, pragmatique, et le pauvre maire, finalement, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et dans tous les cas, si c'était une autre solution, par exemple, camion-citerne, là aussi, qui aurait payé? Donc finalement, les citoyens auraient payé dans tous les cas. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est provisoire, c'est une mesure provisoire, d'accord? Je retiens aussi que c'est les habitants ont l'air d'accepter la situation et que tout de suite, il a eu une baisse de 20%. Ouais.
Bah, ils n'ont pas le choix.
Oui, mais
non,
mais
bah si, ça veut dire qu'ils auraient été capables de le faire normalement.
Si tu fais augmenter, c'est normal. Parce que,
si on leur a dit à la base aux citoyens, ne dépensez pas d'eau, bizarrement, quand on les fait payer.
Je finis. Moi, je n'interromps pas.
C'est un débat, Fatima. On n'est pas dans une classe et on ne t'écoute pas religieusement parce que tu es professeur. On fait un débat, on a le droit de contester ce que tu dis. Voilà, c'est ça les grandes gueules.
Oui, mais tu peux. Jusqu'à présent, on a entendu tout ce que disaient les autres, non?
Oui, c'est très bien.
Mais si tu veux,
vas-y, continue.
Bref, donc je finis. C'est pas du tout au fond de la classe. C'est pas du tout ce que je dis, mais je finis juste. En revanche, sur la question d'eau, vous voyez bien que les choix des gouvernements, à la fin, qui payent, ce sont les citoyens en bas. Et après, on est toujours dans l'urgence. On dit on peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas pris les décisions avant. Donc la question de l'eau et Laura l'a dit très justement, il va falloir que les politiques se posent autour de la table et que ça soit une question finalement qui dépasse la question des partis et même la question de l'écologie. C'est pas simplement les écolos qui doivent penser à l'eau.
Là, ça rejoint ce que dit Charles, c'est-à-dire pour éviter que ça se reproduise chaque année pour cette commune du Jura, quels travaux on met en place? Est-ce qu'on l'aide en faisant venir de l'eau? Avant, les Romains, il y avait le système des aqueducs où on essayait de faire en sorte que l'eau circule entre les communes. Là, aujourd'hui, on peut effectivement aussi les stocker. On peut regarder le réseau. Est-ce que son réseau est en parfait état? Il y a des milliards de mètres cubes qui s'écoulent chaque année.
C'est la responsabilité du maire.
Parce que les réseaux ne sont pas en bon état.
Laisser les agriculteurs refaire ce qu'ils faisaient à l'époque, nettoyer les rivières, etc. Eux, ils entretenaient,
Oui, la solution de facilité en France, c'est d'augmenter soit les impôts, soit les taxes et le prix.
Bien sûr.
Et donc, c'est des gens qui c'est quand même très punitif. Ça peut passer quand même multiplié par 7 le prix. Alors, bien sûr, les gens vont consommer moins d'eau. Déjà, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Je rappelle quand même que le pouvoir d'achat des Français est en baisse. On apprend d'ailleurs que.
Mais je suppose que ce maire, c'est les années d'avant.
Le niveau de richesse des Français ne cesse de baisser.
Le maire, les années d'avant, il avait dû dire consommer pas d'eau.
Attends, on a un agriculteur au 32-16, c'est Jérémy, il est du côté de la Vendée.
Quand tu prends juste une douche le matin et que tu laves deux casseroles, même si le prix de l'eau augmente, ça ne va pas non plus devenir une facture. C'est quand tu consommes beaucoup d'eau.
Bien sûr.
Bonjour Jérémy.
Il y a 60 habitants, il ne peut pas aller les voir les uns après.
Qu'est-ce que vous en dites, Jérémy, de ce qu'a fait le maire alors?
Ben moi, je trouve que j'ai pas forcément d'avis sur le fait d'augmenter le prix, mais je pense qu'effectivement, comme tout ce que vous venez de dire, il faut un peu raisonner l'utilisation du stockage de l'eau. Et en fait, on peut pas ne pas stocker et dire après on a plus. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je viens d'un territoire qui s'appelle la Vendée, dans lequel les communes tous ensemble ont décidé d'investir dans un stockage collectif sur l'ensemble du territoire, grâce à des barrages qui ont été faits dans les années de 50 à 2000, on va dire, et qui permet aujourd'hui de fournir toute l'eau de la Vendée, qui est un territoire touristique qui double presque sa population l'été, et en plus d'envoyer de l'eau dans des départements qui n'ont pas voulu faire ces choix et qui donnent des leçons à tout le monde. Pour ne pas le citer, La Rochelle et Niort. C'est-à-dire qu'eux, ils nous expliquent qu'ils n'ont pas d'eau, mais que tous leurs choix écologiques ont été les bons, et que le seul problème, c'est les agriculteurs qui pompent trop dans les nappes phréatiques. Et donc là, ça me fait un peu bondir, parce qu'en fait, sur notre territoire, parce que le problème de l'eau, c'est des problèmes locaux, qu'il faut gérer sur des territoires très précis, et qu'on en fait des débats nationaux. Et le problème du Jura, c'est pas le même que le problème de Paris, qui est pas le même que le problème de chez nous.
C'est ça.
Parce que les nappes phréatiques ne réagissent pas du tout de la même façon, et il ne pleut pas des mêmes façons.
Ouais. Exactement. Donc réfléchir, il faut réfléchir au stockage, à l'acheminement, au réseau, aux travaux à faire. Quoi. Voilà, faut avoir une vision à long terme.
Il faut réussir à avoir un débat des passionnés, surtout.
Effectivement, faut dépassionner le débat et entendre aujourd'hui qu'il y a des communes qui sont pas raccordés à des services d'eau collectifs, c'est incroyable d'entendre qu'il y a des communes
raccordées aux nappes ou aux puits
sur des puits pour 1000 ou 2000 habitants. Alors, je comprends les décisions qu'elles ont été prises, parce qu'à l'époque, ça coûtait moins cher. Ah oui, mais aujourd'hui, on s'en mord les doigts, parce qu'effectivement, la vision à long terme, elle manque. Et aujourd'hui, le débat sur l'eau, pour des agriculteurs, enfin, nous, moi, je suis en plus irrigant sur des réserves de substitution qui ont été mises en place dans le sud Vendée. C'est un débat qui nous paraît assez dingue quand on voit la quantité d'eau qui part à la mer. Et si on commence à parler de chiffres, les choses sont encore démultipliées. Aujourd'hui, sur des territoires comme la Vendée, qui a des fleuves qui s'en vont à la mer, c'est 3 milliards de mètres cubes qui partent à la mer pour 6 millions stockés pour l'agriculture.
Ouais, effectivement.
Donc, on se rend compte que des proportions. Et voilà. Et donc après, on a des départements qui donnent des leçons, mais qui font pas d'action politique, ou en tout cas qui prennent pas de décision politique, et après qui regardent les autres, alors, qui leur fournissent des choses sans rien.
Jérémy, en tant qu'agriculteur, vous nous sensibilisez aujourd'hui au stockage et aux millions de mètres cubes que l'on doit pouvoir récupérer, mais on va aller de la Vendée justement dans le Jura, et on est dans cette agglomération de Pilmoine, on est plutôt à Lons-le-Saunier avec Adeline, bonjour.
À côté.
Bonjour.
Vous connaissez Pilmoine du coup alors?
Bien sûr, oui.
Et qu'est-ce que vous en dites de ce que fait monsieur le maire?
Ah ben moi je trouve ça très logique, puisque augmenter le tarif, alors je ferai un tarif dégressif, en disant il y a une base où on a besoin de tous vivre, de se laver les dents, mais il y a tous les abus. Moi, par exemple, j'habite un petit village à côté de Lons-le-Saunier. Tous les matins, je sors mes chiens vers 10h30 et régulièrement, mon voisin a tendu son tuyau pour compléter sa piscine.
Alors, attendez, Adeline.
Le voisin sort le tuyau d'arrosage pour remplir la piscine.
La 5G ne passe pas très bien dans le Jura.
Oui, si, le réseau est parfait, c'est Adeline qui n'est pas équipée.
Parce qu'on n'a pas très... Et Adeline, essayez de vous décaler un peu, parce que franchement...
Il n'y a pas d'eau et pas de 5G dans le Jura.
Sautez
pas
très bien. Même pour voir.
Et je me décale.
Voilà. Bougez plus. Restez là, fixe.
Je bouge plus.
Regardez-moi droit dans les yeux et ne bougez plus. Enfin, peut-être que vous n'êtes pas face à la télé. Donc, allez-y.
Donc, je disais, moi, j'ai mon voisin qui régulièrement complète sa piscine depuis les arrêtés de sécheresse, etc. Il la met la nuit quand les gens sont couchés et qu'il fait nuit, et il complète sa piscine en tout à fait égoïste. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut pénaliser. C'est ces gens-là qu'il faut augmenter le prix, leur dire stop, puisque c'est absolument anormal de le faire. Et c'est l'individuel.
Oui, mais alors dans ce cas-là, moi je serais pour un système, Adeline, qui pénalise effectivement ceux qui abusent. Mais là, c'est pas ce que propose le maire. Le maire, il augmente pour tout le monde. C'est pour ça que je trouve
Et qui peut pas savoir. C'est pour ça qu'on disait un mètre cube moyen dépensé par habitant. Et au-delà du nombre de mètres cubes moyens dépensés par habitant.
Le maire, sur 60 habitants, déjà, il les connaît tous. Il sait très bien qui abuse.
Mais là, après, ça peut partir dans les tribunaux et tout. On parle d'un maire de 62 habitants.
Tout le monde, oui.
Bah malheureusement, dans l'urgence, on n'est pas maire, on ne peut pas se rendre compte de la...
Vous avez fait très attention, vous, cet été, à l'utilisation de l'eau.
J'ai plus arrosé mes plantes.
Vous ne vous êtes plus lavé.
Alors si, je me lave, mais...
Ma dernière douche, c'était il y a 6 mois.
Des gens qui sont capables de prendre des bains actuellement, ou de prendre 5 douches, on en connaît tous.
5 douches
parce qu'ils ont chaud, alors on passe vite fait sous la douche. À un moment donné, il faut qu'on soit tous responsables. Mmh. On habite le Jura, qui est un département où il pleut normalement beaucoup plus. On tient notre département. On peut pas mettre la faute sur les agriculteurs. Chez nous, on n'irrite pas beaucoup.
Et est-ce que vous avez déjà croisé Charles Consigny dans le Jura ou pas?
Oui, j'ai déjà croisé.
Elle allait dire le malheur de croiser.
Attendez, vous l'avez croisé?
Non, absolument pas. On est très fiers qu'un Jurassien porte un peu notre parole ailleurs que le Jura.
Donc c'est pas un mythe, il y est de temps en temps, alors c'est vrai.
Il y est de temps en temps, c'est pas un mythe. Et nous sommes contents d'avoir un représentant jurassien.
Vous aimeriez qu'il se présente à la mairie, à la présidentielle, Adeline, Charles Consigny?
Et s'il se présente en bon long jurassien un peu chauvin, on votera pour lui avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Adeline.
Bonne journée à vous.
Mes chers, on vous embrasse, Adeline. Merci d'avoir été avec nous dans les GG.
Vous pouvez bouger à nouveau.
Mais il faudra qu'on y aille dans le Jura d'ailleurs.
Je sais que c'est prévu, il y a quelque chose
qui se prépare, la percée du vin jaune.
Alors, la percée du vin jaune, c'est au moment à peu près le plus froid de l'année. Donc vous allez découvrir vraiment le Jura dans toute sa sauvagerie. C'est plus agréable en automne et au printemps. Mais vous serez les bienvenus quand vous voudrez.
On a posé la question, est-ce que ce maire du Jura qui multiplie par 7 le prix de l'eau, est-ce qu'il a raison? Eh bien vous dites non! à 82,2%.
Le bon sens des Français, de ceux qui nous écoutent.
Dans un instant, avec Fatima, avec Laura et avec Charles, et surtout avec vous au 32-16. Ah, le dossier de l'héritage. Les droits de succession. Du côté de la CFDT, on propose de taxer l'héritage dès le premier euro. Alors, est-ce que vous y voyez une mesure de justice sociale ou est-ce que vous y voyez une nouvelle forme de raquette, R-A-C-K-E-T? Alors que certains l'ont écrit comme une raquette de tennis ce matin en préparant les Grandes Gueules. Je ne donnerai pas de nom à Naïs, je te promets. Donc à tout de suite avec les Grandes Gueules.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.